Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qui legit intelligat, que celui qui lit comprenne. Il est rare, mes bien chers frères, très rare, que les auteurs des évangiles interviennent dans leurs récits pour faire leurs commentaires ou donner des conseils aux lecteurs. D'ordinaire, ils s'effacent plutôt derrière les paroles et les actes de notre Sauveur, sans rien manifester de leurs sentiments ou de leurs réflexions personnelles. Mais, dans le récit qu'on vient de lire, saint Matthieu n'a pu s'empêcher d'insérer un avertissement au milieu du discours de notre Seigneur. « Qui legit intelligat » que celui qui lit comprenne, pour attirer l'attention sur ce passage. Et nous voyons donc ici qu'il y a une difficulté spéciale, et donc il ne faut pas s'étonner si tout n'est pas parfaitement clair à première lecture. Ce qui est clair, en tout cas, et qui peut aider à éclairer tout le reste, c'est le contexte dans lequel Jésus a prononcé ses avertissements. Nous sommes à la veille de la Passion. Jésus est monté à Jérusalem avec ses apôtres. Il y a même fait cette entrée solennelle que nous commémorons chaque année le jour des rameaux. Mais s'il est acclamé par une partie du peuple, toute une autre partie, et particulièrement l'élite de la nation juive, ne veut pas de lui. Le drame du Vendredi Saint se prépare avec toutes ses conséquences. Dans la journée du Mardi Saint, alors que les apôtres, tout insouciants, invitent Jésus à admirer la beauté du temple, celui-ci répond de façon abrupte « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme on peut s'en douter, cela jette un froid et cela cause un assez long silence, au terme duquel les apôtres essaient d'en savoir plus. « Maître, demande-t-il, quand donc cela sera-t-il ? Et quels seront les signes de la fin du monde ?» Vous remarquez qu'il y a ici une double question. Les apôtres ne distinguent pas bien les deux questions, ils demandent à la fois « Quand aura lieu la chute de Jérusalem et quels seront les signes de la fin du monde ?» À cette double question, Jésus va apporter une double réponse. « Quand adviendra cette destruction du temple ? En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. Pour ce qui est du moment où le ciel et la terre passeront, en revanche, Jésus refuse toute indication de temps. Quant à ce jour et cette heure-là, dit-il, personne ne sait, pas même les anges dans les cieux. Mais le plus frappant dans ce discours, dont nous n'avons entendu à l'instant qu'une partie, ce sont les consignes données par notre Sauveur au sujet de la catastrophe à venir. Les apôtres sont surtout curieux de savoir quand elle arrivera. Et c'est très caractéristique de la curiosité humaine, savoir quand. Mais Jésus, en face, veut surtout expliquer comment il faudra réagir. On le sent ému de compassion pour toutes ces victimes, dont un certain nombre sont déjà nés et qu'il a rencontrés sur les chemins de Judée, particulièrement parmi ses enfants qui venaient parfois l'entourer. Son cœur humain se serre en pensant aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là. Et ça n'est pas la première fois qu'il s'attriste à ce sujet. On l'a déjà vu pleurer sur Jérusalem. C'était l'évangile du 9e dimanche après la Pentecôte. Et on le verra encore, le jour même de sa mort, dire aux femmes qui le plaignent, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car vont venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles et les entrailles qui n'ont pas enfanté et les mamelles qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous », car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec ? Cette catastrophe, Jésus veut de tout son cœur l'épargner à ceux qui veulent bien l'écouter. Et pour cela, il donne des consignes très précises. On peut en distinguer quatre. Quatre conseils, quatre recommandations qui peuvent encore nous éclairer aujourd'hui et qu'il faut donc examiner de près. D'abord, la première consigne est celle de la fuite rapide, immédiate, sans aucun retour en arrière et sans hésitation. De fait, en l'an 70, les armées romaines sont arrivées très rapidement et ont immédiatement encerclé la ville de Jérusalem, où une bonne partie de la population s'était réfugiée et se trouva ainsi prise au piège. La seule chance de salut, c'était la fuite anticipée. Et c'est d'ailleurs ce que firent un bon nombre de chrétiens qui n'attendirent pas l'arrivée des Romains pour s'enfuir au-delà du Jourdain et se réfugièrent dans la ville de Pella, où certains d'ailleurs s'installèrent ensuite définitivement. Jésus commence donc par cette consigne de fuite qui est la plus immédiate face au danger et la recommandation d'urgence, fuir sans attendre. On pourrait traduire en langage populaire, dès que le moment sera venu, foncez sans vous retourner. Il indique ensuite comment se préparer à cette fuite. Et sa seconde consigne est celle de la prière. Priez, dit-il, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. Notez bien que Jésus ne recommande pas de prier pour être totalement dispensé de cette épreuve. Non, dans le plan de Dieu, ce n'est pas possible. Une telle demande ne serait pas exaucée. Il y a donc des épreuves dont nous ne pouvons pas être libérés même par la prière. En revanche, nous pouvons et nous devons prier pour que l'épreuve soit supportable. Qu'elle soit supportable physiquement, qu'elle n'ait pas lieu en hiver, au moment où les chemins sont le moins fréquentables, et qu'elle soit supportable psychologiquement, que la fuite n'ait pas lieu un jour de sabbat. Et là, oui, pour cela, nous pouvons et nous devons prier. Les deux dernières consignes de Jésus sont des consignes de discernement. L'une est négative, l'autre est positive. La consigne négative prône la méfiance. Ne soyez pas crédules, ne croyez pas trop facilement tous les beaux parleurs qui prétendront venir en mon nom. Attention aux faux messies, attention aux faux prophètes, attention aux faux miracles. La recommandation s'applique aux temps qui précédèrent la ruine de Jérusalem, qui virent effectivement une floraison de faux messies et de faux prophètes qui entraînèrent les naïfs dans des révoltes contre les Romains ou des entreprises catastrophiques. Mais elle vaut pour tous les temps. Chaque époque a ses faux prophètes et son faux messianisme. On pourrait parler aujourd'hui du transhumanisme ou de l'écologisme. Chaque époque a ses séducteurs. Mais nous savons de façon ferme que nous ne pouvons accepter aucun changement de doctrine, aucune modification de notre foi jusqu'au retour du Christ, le Christ dont l'avènement sera évident, ne pourra pas s'y tromper, car il viendra comme l'éclair qui brille de l'Orient jusqu'à l'Occident. Enfin, la dernière consigne est une consigne de prudence positive. Elle est résumée dans la parabole du figuier, qui nous encourage à être aussi attentifs au plan de Dieu qu'aux réalités de la nature. Lorsqu'il s'agit des fruits de la terre, nous savons faire attention et remarquer les signes qui indiquent les différentes étapes, les différentes saisons et qui préparent la récolte. Or, il y a de même des étapes successives dans le plan surnaturel de Dieu, sur le monde en général et sur chacun de nous en particulier. Cette consigne de discernement est évidemment liée à celle de la fuite que Jésus a développée tout à l'heure. Car comment fuir efficacement si l'on est incapable de discerner le moment où cela deviendra nécessaire? Ici, mes frères, vous me demanderez peut-être quelle est l'utilité aujourd'hui de cette consigne. Car si les Juifs de Jérusalem ont eu besoin de s'enfuir pour échapper aux Romains, cela s'est passé il y a presque 2000 ans et cela ne semble plus être d'actualité. Mais si l'on y regarde bien, cette insistance sur la fuite nécessaire dans certains cas et même la rupture immédiate, la rupture définitive, est un thème qui revient très souvent dans la Sainte Écriture. Regardez Abraham, comment commence l'histoire d'Abraham ? Quitte ton pays. Regardez Lot à Sodome qui va être détruite. Il doit quitter Sodome sans se retourner. Et Jésus lui-même recommandera de ne pas imiter la femme de Lot qui s'est retournée en arrière. Et d'ailleurs, dans son enfance, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été dans cette situation de fuite avec Saint Joseph. Saint Joseph à qui l'ange déclare une nuit, sans préparation, sans avertissement auparavant, tout à coup, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Avouez que c'est un peu raide et que si nous nous trouvions dans les mêmes circonstances, nous aurions peut-être un peu de mal. Et pourtant, c'est cette attitude générale que notre Seigneur veut nous recommander. Une attitude de détachement. Être capable de fuir, fuir dans la montagne, sans descendre dans la maison, sans même chercher un manteau, si cela nous est nécessaire pour assurer notre salut. Et de fait, pas forcément de cette façon physique, mais au moins de façon morale, tous les chrétiens doivent, à un moment ou à un autre, exercer ce genre de fuite, fuite par rapport au monde qui veut les entraîner au péché. Et on peut regarder cela dans les vies individuelles et même à travers les différentes générations qui vont se trouver face à certaines difficultés. Par exemple, il y eut une génération qui fut envahie par la télévision. Seules les familles qui surent s'en protéger efficacement réussirent à échapper à l'esprit du monde. Il y eut une génération où il fallut quitter les églises parce qu'arrivait la nouvelle messe. Et de même, on pourrait, en remontant plus haut, penser à tous ces chrétiens qui sont un jour partis au désert, dans le désert, les pères du désert, pour quitter le monde et vivre à l'écart. Ou bien ceux qui sont partis tout à coup abandonnant tout pour délivrer Jérusalem, partis en croisade. Ou bien ces jeunes gens qui avaient tout pour réussir dans la vie et qui ont décidé un jour de laisser tout de côté pour se consacrer aux pauvres. Ce sont bien sûr les vocations religieuses ou sacerdotales, mais de façon plus large, ce sont les choix qui se proposent à tout chrétien à un moment ou à un autre qui va devoir, par exemple, rompre avec telle compagnie, rompre avec telle habitude, même quitter son métier éventuellement, quitter telle région, pour être fidèle au bon Dieu. Et cela demande l'esprit de détachement, savoir être capable de tout quitter sans regarder en arrière pour faire la volonté de Dieu. C'est peut-être en cette fin d'année, avant d'aborder une nouvelle année liturgique, le point sur lequel nous pouvons nous examiner. Encore une fois, ça ne se présente jamais de la même manière au cours de l'histoire de l'Église, ni même dans la vie de l'un ou de l'autre, mais c'est un choix qui est mis en face de chaque chrétien à un moment ou à un autre. Il faut choisir, il faut accepter, pour suivre Jésus-Christ, de rompre avec un milieu dans lequel on était jusqu'ici bien installé. Demandons donc à nous-mêmes si nous sommes prêts, si nous avons cet esprit de détachement, et si nous nous rendons compte que nous ne l'avons pas, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa Sainte Mère, de nous faire grandir dans cet état d'esprit qui, évidemment, est renforcé par le spectacle de la fin du monde. Ce monde disparaîtra, il passera, ça n'est pas lui qui est important. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.